Bon matin à tous. Alors, on voit que ceux qui sont ici présents ont ajusté l'heure. On est maintenant à l'heure avancée de l'Est. Alors, félicitations à ceux qui se sont levés en ayant perdu, entre guillemets, une heure de sommeil. Alors, je vous invite à tourner avec moi dans le deuxième livre de Samuel au chapitre 9. Et aujourd'hui, on va voir une bonne nouvelle pour les indignes. Peut-être que toi qui es assis ici ou toi qui es à l'écran, tu te dis, ben ça me concerne pas, je me sens pas indigne, je suis à la hauteur de toute situation, ça va bien à mon travail, ça va bien dans mon couple, ça va bien dans mon rôle de père, de mère, etc. Je me sens quand même dans une bonne moyenne à la hauteur de la situation. C'est sûr qu'il y a des hauts, des bas, c'est sûr qu'il y a des défis. Mais de là à dire que je me sens indigne, c'est peut-être pas mon cas. Mais le sentiment d'indignité, c'est le sentiment de pas être à la hauteur. Et moi, je crois personnellement que c'est inhérent au cœur humain. Peu importe la classe sociale dans laquelle on est, dans laquelle on se trouve, eh bien, il y a à quelque part dans nos vies ce sentiment-là de pas être à la hauteur, de pas arriver puis de dire, « Mais semble que ce que je vis, c'est pleinement satisfaisant, je suis pleinement satisfait et tout ce qui m'arrive, je le mérite parce que je suis à la hauteur. » Vous savez, il y a même des grandes stars, des gens qui ont une renommée internationale, qui ont vécu un sentiment d'indignité, même s'ils ont l'acclamation des foules, même s'ils vendent des albums, des millions d'albums, on pense juste à Bob Dylan. Pour les baby boomers, Bob Dylan, ça a été une icône de la chanson qui a vendu énormément de disques, mais il a généré une controverse en mai 2013, ça fait pas si longtemps que ça. On voit que les journaux français disaient que parce que il devait recevoir la médaille de la Légion d'honneur de la France. Un honneur qui est vraiment prestigieux. Mais ce qui arrive, c'est que le chancelier de cette Légion d'honneur, celui qui préside cette Légion d'honneur-là, hésitait à cause de son passé, ses prises de position, le fait qu'il y a eu des problèmes avec la drogue. Eh bien, ce qui est arrivé, c'est que quelques mois plus tard, malgré que une certaine tranche de l'opinion publique, et même que le président de cette légion-là, le chancelier, pardon, de cette légion-là, le considérait indigne, il a néanmoins, quelques mois plus tard, en novembre 2013, reçu cet honneur. Il a été donc médaillé de la Légion d'honneur envers et contre tous, en France, en 2013. Mais on va voir, nous, ensemble, plus particulièrement, un homme, dans 2 Samuel chapitre 9, qui est un indigne, qui a été honoré, qui a vécu un honneur. Et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je veux vous apporter ce message-là, parce qu'il y a une bonne nouvelle pour ceux et celles qui vivent un moment d'indignité. Ce n'est pas un message de désespoir, ce n'est pas un message sombre en disant « on est tous des indignes ». Et amener une lourdeur. C'est totalement le contraire. C'est qu'il y a une issue. Il y a un espoir. Et c'est pour ça que plutôt qu'essayer d'étouffer ou de camoufler l'indignité de notre personne ou de notre situation, eh bien, on peut venir puis se présenter devant Dieu avec notre indignité puis recevoir de lui ce qu'on ne mérite pas. Et ça, c'est la beauté, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que si tu considères, puis si tu laisses ce message-là t'atteindre, pénétrer ton cœur, tu vas voir qu'il y a des éléments qui te dépassent. Parce que ce n'est pas normal que quelqu'un d'indigne soit honoré. Ce qu'il faut comprendre, cet homme-là qu'on va voir, qui est un nom étrange pour des Québécois comme nous, qui s'appelle Mephibosheth. Mephibosheth, c'est un homme qui est handicapé. accidentellement, à cause d'un accident, est devenu handicapé. Et ce qui arrive, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, dans l'Antiquité, la perception que les gens avaient des handicapés n'était pas tout à fait la même que la nôtre aujourd'hui, en 2015, au 21e siècle. Parce que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des stationnements qui sont réservés aux handicapés. Puis ça prend une vignette pour se stationner là. Puis gare à toi si t'as pas ta vignette, puis tu te stationnes là, parce que à certains endroits ça peut varier, mais en moyenne ça peut te coûter 300, 400, 500 $ de contravention parce que tu t'es stationné là dans un stationnement. Parce que on veut que justement cette place-là soit réservée à ceux qui ont une mobilité réduite. On a aussi, par exemple, les paralympiques, donc ceux qui ont des déficiences physiques, qui sont handicapés, peuvent jouir de certains sports puis compétitionner. Et donc, on a même vu un des plus grands honneurs qui était réservé à une handicapée, eh bien, Mme Thibault. Malheureusement, quand on l'a nommée, on pensait pas qu'il allait arriver ce qui s'est produit ici au Québec. Elle n'a pas nécessairement été digne de cette fonction-là. Mais au moment qu'on l'a nommée, c'était la première fois qu'on nommait quelqu'un à ce titre prestigieux de représentant de la reine, à titre de lieutenant-gouverneur. Mais ce qu'il faut considérer, c'est qu'à l'époque de l'Antiquité, comme je vous disais, c'était différent. C'était différent parce que les handicapés étaient exclus de la prêtrise, du sacerdoce. Et donc, on voit ça dans Lévitique 21, puis je vais aller assez rapidement, vous pouvez le prendre en note, les versets 16 à 24, mais on voit que ceux qui avaient des défauts corporels, par exemple, s'il y en avait qui étaient aveugles, boiteux, défigurés, des gens qui avaient, par exemple, des fractures aux pieds, à la main, qui étaient bossus ou nains, qui avaient une tache à l'œil, qui avaient de la gale, de la darte, donc c'est une maladie qui avec des peaux, puis avec la peau qui avait des plaques sèches, ou même des testicules écrasés, le texte nous dit, eh bien, ils étaient exclus. Ils ne pouvaient pas, s'il y avait une déformation physique, ils ne pouvaient pas être prêtres. Et ce qui est intéressant, c'est que ces gens-là, eh bien, Jésus, quand il est venu sur terre, il les a guéris. Et donc, dans la mentalité des Juifs, un handicapé, c'était quelqu'un qui n'était pas nécessairement béni de Dieu. Ce que ça produisait dans la mentalité, parce qu'il faut considérer aussi que à cette époque-là, il n'y avait pas d'assurance chômage, d'assurance emploi, il n'y avait pas de bien-être social. Le tissu social était vraiment différent. Si ta famille ou tes proches s'occupaient pas de toi, tu mendiais ou tu crevais de faim. Et donc, c'était vu comme des rejets de la société. Nous, dans notre société, on s'occupe des handicapés, puis on est offusqué, puis avec raison, lorsque une personne qui veut un handicap physique est maltraitée ou qu'on ne prend pas soin de lui. Même à l'époque de Jésus, on voit, par exemple, dans Jean chapitre 9, verset 2, les disciples posent cette question-là. Ils posent à Jésus, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Et donc, il y avait comme tout ça en disant, si tu as un handicap, tu n'es pas béni de Dieu. Et donc, mais Jésus, lui, est venu pour guérir. Et nous, à cause du péché, à cause de notre nature hostile à Dieu, eh bien, on est handicapé face à la gloire de Dieu. Et comme je vous ai dit, on va voir ensemble un des personnages bibliques qui est handicapé, l'exemple de cet homme, Mephibosheth. Mais ce qu'il faut faire attention, si vous approfondissez cette étude, il y a deux Mephibosheth dans la Bible. Il y a le fils de Saul et Rizpa dans 2 Samuel 21-8, et il y a le fils de Jonathan. Et nous, ce qu'on va voir, c'est le fils de Jonathan, Mephibosheth qui est le fils de Jonathan. Puis pour bien situer dans le contexte, David est ami avec Jonathan. Jonathan, c'est le fils du roi Saül. Mais il y a une chicane entre Saül et David, dans le sens, c'est pas une chicane, mais Saül est jaloux de David parce qu'il a du succès. Dieu lui donne du succès et puis il veut faire mourir David. Mais ce qui arrive, la problématique, c'est que le fils de Saül, c'est le meilleur ami de David. Et ce qui est intéressant, c'est que un pasteur me faisait remarquer, c'est que Jonathan, normalement, pouvait espérer devenir le successeur de son père, devenir le roi. Donc, il aurait pu, lui aussi, voir David comme une menace en disant, si c'est lui le prochain roi, ce ne sera pas moi. Mais Jonathan, c'était un homme de Dieu, puis c'était un homme qui était capable de reconnaître l'appel de Dieu sur David. Et ils ont fait une alliance. Et dans cette alliance-là, David s'était engagé de prendre soin de toute la descendance de Jonathan. Mais ce qui arrive, c'est que Jonathan et Saül meurent au combat. Et ce que ça produit, c'est que il y a une femme qui prenait soin de Mephibosheth, le fils de Jonathan, qui est partie à la course parce qu'elle s'est dit, bon, ben si Saül et Jonathan sont morts, ils vont certainement tuer ce petit enfant de 5 ans-là. Et donc, dans la panique, elle part à courir, elle fait une chute et elle tenait cet enfant-là avec elle. Et c'est là que cet enfant-là subit un accident et devient handicapé. À l'âge de 5 ans. Et donc, cet enfant-là pourrait en vouloir à cette femme-là, pourrait en vouloir à Dieu, en disant, comment ça se fait que moi, ma vie est ruinée, ma vie est gâchée à cause de cet accident-là. Puis on va voir qu'est-ce qui est arrivé justement à cet homme, quelques années plus tard. Et c'est pourquoi je vous invite à vous recueillir, on va se remettre devant Dieu, on va prier. Puis la raison pour laquelle on va prier, c'est simplement pour que nos cœurs soient disponibles à recevoir ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui. Seigneur, on vient se recueillir devant toi parce que tu veux nous donner une réflexion cette semaine, un sujet à méditer, à réfléchir, à faire le point. Tu veux nous amener à faire des liens entre ce que ta parole nous donne et ce que tu veux nous donner pour nous éclairer dans notre vie. Alors, puisse ces Écritures générer vie, lumière, et nous amener à te reconnaître dans toutes nos voies. On te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Alors, 2 Samuel, chapitre 9, mais on n'ira pas là-dedans à cause du facteur temps, mais si on regarde le chapitre 8, on voit que c'est une époque où est-ce que David réussit à vaincre les nations ennemies, parce qu'Israël, de tout temps, de par sa localisation géographique, de par son territoire, était convoité, parce que c'est la porte d'entrée pour l'Europe, pour l'Afrique, c'est au cœur de la Méditerranée, disons. Et donc, c'est vraiment une intersection maritime, c'est un lieu vraiment stratégique pour l'économie et pour être bien positionné. Et donc, Israël a été régulièrement en guerre. Mais c'était une époque où est-ce que David et son armée, à cause de la bénédiction de Dieu et à cause du génie militaire que Dieu avait donné à David, eh bien, était très respectée, était très crainte, cette armée-là, et réussissait à bien gérer ce lieu géographique-là qui était Israël. Et on voit que la main de l'Éternel est sur David, dans 2 Samuel chapitre 8. Et même, on le voit au verset 14, que l'Éternel protégeait David partout où il allait. Mais au verset 9, à ce moment-là, David est dans une position où est-ce qu'il règne, son règne est solide, et il est craint par les nations avoisinantes. Et là, il se lève un bon matin, puis il y a une réflexion. Il est entouré de conseillers, de gens autour de lui. Dans 2 Samuel chapitre 9, il pose cette question-là aux personnes qui sont autour de lui. Il dit, verset 1, « David demanda, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Et ça, c'est vraiment extraordinaire parce que, n'oubliez pas, Saül voulait la tête de David, c'était son ennemi. Et moi, ce que je veux vous apporter au travers de ce passage-là, ce texte-là de 2 Samuel chapitre 9, c'est de vous amener à faire des liens avec la personne de Jésus-Christ puis les réalités qu'on a, nous, les chrétiens, aujourd'hui, en Jésus-Christ. Jésus, c'est ce qu'il faisait, on le voit dans Luc 24, 44, que il parcourait les Écritures et puis il leur enseignait tout ce qui le concernait. Et l'Ancien Testament est rempli de liens, on le voit dans 2 Corinthiens 10, on le voit dans Romains 15, que toutes les Écritures sont utiles pour nous enseigner. Et il y a plein de symboliques qui nous ramènent à la personne de Jésus-Christ. Des analogies qu'on peut faire avec la personne de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va voir dans 2 Samuel chapitre 9. Et quand il dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la famille de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Et qu'est-ce que ça nous rappelle, ça? C'est que Dieu peut nous faire du bien à nous, les chrétiens, à cause de Jésus-Christ. À nous qui sommes ses enfants, à nous qui sommes nés de nouveau, à nous qui, justement, avons été sauvés par lui, il peut nous faire du bien, même si on est considéré, dans Romains chapitre 5, des ennemis de Dieu. C'est exactement ce que nous dit Éphésiens 1, 3, puis Éphésiens 2, 5 à 7. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Si nous, on a accès à la bonté de Dieu, à la grâce de Dieu, à l'amour de Dieu, c'est à cause de Jésus-Christ. Et lui, le petit-fils de son ennemi, il veut lui faire du bien. Nous sommes des fils d'Adam qui a été séparé de Dieu en désobéissant dans le jardin d'Éden. Mais on peut recevoir tout bienfait de Dieu à cause de Jésus-Christ. Et au verset 2, il dit, « Il y avait un serviteur de la famille de Saül, un dénommé Tsiba, que l'on fit venir vers David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba? » Il répondit, « Pour te servir. » Et là, c'était pas le temps de faire des farces. C'était pas le temps à lui de dire, « Non, je suis Tsio. » Parce que, n'oubliez pas, il est de la famille de Saül. Fait que lui, quand il arrive, il se dit, « Ça y est, David a conquis tous les territoires autour. » En tout cas, il empêche l'ennemi de venir envahir Israël. Il règne sur Jérusalem. Il règne sur Israël. Il est craint par les nations. Là, maintenant, il veut faire un nettoyage. Puis là, il va rendre ses comptes à la famille de Saül. « S'il me fait venir, je suis un serviteur de Saül. Ça y est, je vais manger une volée. » Si jamais il y a des Français, des gens de la France ou de la Suisse qui entendent ça, manger une volée, ça veut dire recevoir toute une gifle. C'est ça que ça veut dire. Et donc, non, mais c'est parce qu'il y en a des fois qui sont ailleurs, qui disent, mais qu'est-ce que ça veut dire? Juste une fois, je parlais en France, puis je dis, je suis allé prendre une marche. Là, je sentais qu'ils ne comprenaient pas. Ouais, je suis allé me promener. Ah, d'accord. Vous avez des expressions qu'on prend pour acquises. Alors, et là, lui, il dit, pour te servir, ça veut dire, David, t'es mon roi, je suis pas ton ennemi, je suis là pour toi, je souhaite que tu vas me traiter avec indulgence, même si j'ai été associé au règne de Saül. Au verset 3, le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la famille de Saül pour que je fasse preuve envers lui de la bonté de Dieu? Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, il est handicapé aux deux jambes. » Le roi lui demanda, « Où est-il? » Et Tsiba répondit au roi, « Il est chez Makir, fils d'Amiel, à Lodabar. » Et ce qui est intéressant ici, bon, je n'aurai pas le temps de développer tout ça, mais on voit que David veut donner sa bénédiction au fils de Jonathan. C'est aux enfants de Dieu que la bénédiction est réservée. Il ne la donne pas aux serviteurs. Et donc, le roi David l'envoya chercher chez Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et au verset 6, Mephibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, vint vers David, tomba le visage contre terre et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Il répondit, me voici, je suis ton serviteur. Il a la face à terre. Il dit, ça y est, ils m'ont trouvé. Lui aussi se dit, je suis mort. David, Saül voulait tuer David. Là, il veut régler ses comptes. Il veut être sûr qu'il n'y aura pas personne de descendant de Saül qui va se venger ou essayer de reprendre cette place-là. Et donc, il veut m'exterminer. Et c'est la même chose à nous, face à Dieu, les chrétiens. Devant la sainteté de Dieu, devant la grandeur de Dieu, devant la pureté de Dieu. Quand Dieu nous dit dans Habacuc que ses yeux sont trop purs pour voir le mal, eh bien, on est digne de mort, nous aussi. Le salaire du péché, c'est la mort. On est séparé de la gloire de Dieu, privé de la gloire de Dieu. On voit dans Colossiens 2:13, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné de toutes nos fautes. On voit le même principe dans Éphésiens 2:11-13. Et lui, ce qui méritait, c'est la mort. Il se considérait comme un homme mort devant David. Et David lui dit, « N'aie pas peur », au verset 7. « Car je veux te faire du bien à cause de ton père Jonathan. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, et tu mangeras toujours à ma table. » On voit quatre choses ici dans ce verset-là. N'oubliez pas, il se sent indigne. Il ne se sent pas à la hauteur. Il sait que devant David, David a le droit de vie ou de mort sur lui. Il est roi. Puis David avait la réputation que donner un petit coup d'épée en dessous de la gorge, ça ne dérangeait pas trop. Ça n'aurait pas été son premier. C'est un homme de guerre, c'est un homme de sang. Il se dit, qu'est-ce que je fais là, moi, dans la cour du roi? Je n'ai rien à y apporter, je n'ai rien à y offrir. Je veux dire, je suis un handicapé. Je suis indigne de la présence du roi. Mais la première chose qu'il lui dit, n'aie pas peur. C'est une expression qui est utilisée par Jésus. N'ayez crainte, n'ayez pas peur, soyez en paix. Parce que face à Jésus, ses disciples voyaient très bien qu'ils n'étaient pas à la hauteur. De la même manière, Mephibosheth savait très bien qu'il était indigne. Mais qu'est-ce qu'il lui dit après? N'aie pas peur, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan. Et encore une fois, Dieu veut nous dire, au travers de ce passage-là, quel est le lien qu'on peut faire avec notre relation avec lui? Eh bien, il veut nous faire du bien à cause de Jésus-Christ. Si je m'approche de Dieu, puis je reçois de bonnes choses de sa part, si je le vois répondre à mes demandes, à mes prières, ce n'est pas parce que je suis bon puis que je suis arrivé à un niveau de spiritualité plus élevé, j'ai été plus fidèle cette semaine. Évidemment, ça honore Dieu. Évidemment, ça plaît à Dieu, ces choses-là. Mais si Dieu peut nous accorder, ce n'est pas parce que dans notre niveau de sainteté, elle a augmenté. S'il nous accorde des bienfaits, c'est à cause de Jésus-Christ qui a payé pour nous. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Sinon, la gloire devient à notre performance, elle repose sur notre performance spirituelle et non pas sur Jésus-Christ. Et lui, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tout est par lui et pour lui. Et ce qu'il va dire également, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père. Qu'est-ce que nous en Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des promesses qui nous sont faites à nous? Oui. On voit dans Jean 14, 1 à 3, que le Seigneur nous prépare une demeure. Et on voit dans Marc 10, les versets 29 et 30, Jésus nous dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans le siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Et donc, certains vont recevoir ici sur terre, d'autres vont le recevoir dans la vie éternelle. De Dieu, des choses concrètes. Et lui, qui était digne de mort, Mephibosheth va recevoir ce que son père avait perdu. Ce qu'on a perdu en Adam, dans notre position déchue, séparée de Dieu, on le retrouve en abondance en Jésus-Christ. Une partie sur cette terre et une grande partie dans l'éternité, dans le siècle à venir. Au verset 8, Mephibosheth se prosternant et dit, « Qui suis-je, moi, ton serviteur, pour que tu prennes attention à un chien mort tel que moi, un chien mort tel que moi? » Encore une fois, il se positionne comme il dit, « Je suis ton serviteur. Je mérite la mort. Tu aurais raison de vouloir me tuer. Tu aurais raison de vouloir me tuer. » Dieu aurait raison de nous châtier. Mais pour ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur par la repentance, ont reconnu qu'ils sont fautifs devant Dieu et ont reconnu qu'il est le seul moyen par lequel on peut être sauvé. Ont reconnu qu'il est le seul chemin, qu'il est la seule vérité, qu'il est la seule source de vie. Il est la vie. Eh bien, pour ceux-là, ils reçoivent la vie éternelle et tout ce qui en découle. Et ce qui est intéressant, c'est que tu prêtes attention à un chien mort tel que moi, il faut comprendre, on va le voir dans Matthieu 15, 22 à 28, et on peut le voir Matthieu 15, 22 à 28, puis dans Marc 7, 25 à 29, les chiens, c'était représentatif des non-juifs. C'était une expression populaire qui représentait les non-juifs. Et donc, il est en train de dire, moi, là, tu pourrais me considérer comme une personne qui ne fait pas partie du peuple de Dieu. Pour nous, les chrétiens, c'est comme dire, Seigneur, tu pourrais me considérer, si tu me regardes, puis si je me regarde, là, je ne suis pas mieux qu'un non-chrétien. Est-ce qu'on est meilleur qu'un non-chrétien? Souvent, des non-chrétiens pensent que parce qu'on parle de Dieu, puis on élève les standards de Dieu, puis on recherche la gloire de Dieu, qui pensent qu'on se pense supérieur. Mais moi, je veux dire, il y a bien des non-chrétiens qui sont bien plus patients que moi, bien plus, je vous dirais, miséricordieux même que moi. Juste sur la route. Je me souviens une fois, un matin, il y a un gars, il y avait de la neige, j'étais glissant. Le gars me voit, je pense. Puis lui, il pèse sur le gaz, puis il me coupe. Fait que moi, je le dépasse, puis je m'arrête, j'arrive pour sortir. Mon fils, dans ce temps-là, il avait 14-15 ans, il dit, « Ah, papa! » Quand j'ai entendu mon fils dire ça, c'est comme si ça m'a sonné une cloche. Je dis, hey, « c'est vrai, je suis chrétien. » C'est vrai. Là, c'est comme si, il venait. Hey, le gars, je le prends, je le sors par la fenêtre, je dis, qu'est-ce que t'as fait là, mon homme? Gloire à Dieu, c'est pas arrivé, mais. J'avais le goût. Là, après ça, savez-vous quoi? Je me sentais tellement indigne. Je me suis dit, oh boy. Ça, c'est mon cœur, ça. Ça, c'est mon cœur. Seigneur, ça c'est moi. Je reconnais, Seigneur, que je suis impatient. Je reconnais que, Seigneur, là, quand on m'offusque, là, je suis prêt à tirer de la carabine. Mais toi, tu n'as pas été comme ça envers moi, Seigneur. Ce que Mephibosheth est en train de dire, je suis indigne de ta présence. Traite-moi comme un non-chrétien. Je suis digne de mort par mes fautes, par mes offenses. Éphésiens 1, 2, il dit, Éphésiens chapitre 2, verset 1, « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Le péché, c'est de manquer la cible, c'est de passer à côté de ce que Dieu veut. Et c'est un acte de rébellion, d'indépendance, d'hostilité à l'égard de Dieu. C'est une bouderie, c'est une vengeance passive. Tu sais, le péché, c'est pas juste mentir ou convoiter. Mais tu sais, des fois, tu dis, bon, ben Seigneur, tu ne m'as pas répondu à cette prière-là, ben, ouais, ben, je pense que je ne te servirai pas, là. Là, je vais te priver de moi un petit peu. Ça vous est jamais arrivé d'avoir cette attitude-là? Moi, ça m'est déjà arrivé. J'ai dû me repentir de ça en disant. J'ai réalisé à ce moment-là, c'est le Seigneur a dit, écoute, Éric, c'est pas un privilège que tu me fais de me servir. C'est un privilège que je t'accorde de me servir. Là, c'est comme je dis, oh Seigneur, ouf. Ouais, c'est vrai que je suis digne de mort devant ta sainteté. Au verset 9, le roi appela Tsiba, le serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa famille. » On pourrait comparer, puisque c'est un serviteur, Tsiba aux anges, par exemple, qui dans Hébreux 1, 14, qui sont des esprits au service de Dieu, qui sont envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Mais comme descendant d'Adam, il retrouve ce qu'il a perdu grâce à Jésus-Christ. C'est un peu le parallèle qu'on peut faire. On voit ça dans Romains chapitre 5, dans 2 Corinthiens chapitre 5. Et tout un honneur qu'il a reçu. Et au verset 10, il dit, « Tu cultiveras les terres pour lui, » il parle à Tsiba, avec tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain de quoi manger. En outre, Mephibosheth, le fils de ton maître, mangera constamment à ma table. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Ça, c'est intéressant parce que, d'une part, on voit dans Éphésiens 1 et Éphésiens 2 qu'on va régner sur les anges, mais le point où est-ce que je vais attirer votre attention, c'est c'est ça. Excusez. C'est qu'il va manger à sa table. Et le parallèle qu'on peut voir, si vous allez dans l'Apocalypse au chapitre 3, c'est le dernier livre de la Bible, et dans ce passage-là, le Seigneur nous démontre 7 types d'églises. Et le Seigneur s'adresse à ces églises-là au travers de son messager. Et il parle à l'église de Laodicée parce que c'est une église qui est tiède. On pourrait dire, en québécois, confortable. Tu sais, c'est une église qui est confortable. Elle n'est pas bouillante, mais elle n'est pas froide. Et ça dégoûte Dieu. Mais, malgré ça, le Seigneur, et ça démontre son caractère, il tend la main à cette église-là. Puis il dit, « Moi, je reprends et je corrige tous ceux que j'aime » au verset 19 d'Apocalypse 3. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et ça nous parle d'avoir une communion, d'être assemblé, associé à lui. Dans l'Antiquité, quand tu mangeais à la table de quelqu'un, c'était un honneur. Ça voulait dire qu'il s'associe à toi. Ça veut dire qu'il fait un avec toi. Ça veut dire que vous êtes des alliés. Vous partagez le même repas. Vous êtes en communion. Puis il est en train de dire, toi là, Mephibosheth, qui est un handicapé, qui est un indigne, puis tu as peut-être subi les moqueries, puis peut-être que tu t'as crevé de faim parce que tu ne pouvais pas travailler comme tu voulais pour te payer ce que tu voulais. Mais là, tu manqueras de rien. Tu vas manger à ma table. Non seulement je vais te nourrir puis je vais prendre soin de toi dans tes besoins de base, comme on voit dans l'échelle de Maslow, là, mais tu vas avoir l'honneur d'être associé à moi. Tu vas manger à ma table. C'est pas n'importe qui mange à ma table. Je suis le roi d'Israël, craint parmi toutes les nations. Et c'est l'accès que nous, on a en Jésus-Christ. L'accès auprès du trône de grâce, l'accès auprès de la présence de notre Père à cause de Jésus-Christ. Je peux m'approcher de Dieu, être dans sa présence, me recueillir auprès de lui, me confier en lui, lui faire part de mes besoins. Et c'est la volonté de Dieu. Ça me fait penser, moi, à une histoire, une scène qui m'est restée du film Le Titanic, que qui est paru là, il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Et puis, avec M. DiCaprio. Et moi, personnellement, c'est une question de goût. Là. Je n'ai pas nécessairement aimé le film plus que... Pas tant que ça, là, mais il y a une scène, par exemple, que j'ai retenue qui, pour moi, là, m'a marqué. C'est quand Jack, c'est... Comment je pourrais dire ça? C'est le gars de la rue. C'est qu'il joue aux cartes. Puis il gagne, en jouant aux cartes, il gagne un billet pour aller sur le Titanic. Tu sais. C'est un gars de la rue. Puis s'il avait été à notre époque, il aurait été en jeans, puis un t-shirt, pas nécessairement très frais. Puis il est rentré sur le Titanic, puis il rencontre cette jolie demoiselle qui est fiancée. Puis là, les deux tombent en amour, tout ça. Mais à un moment donné... Cette fille-là, elle fait partie d'une famille assez riche. Puis pour rentrer dans cette salle de réception, où est-ce qu'il y avait de repas de haute gastronomie, il fallait entrer en tuxedo. Mais lui, il n'y en avait pas de tuxedo. Mais ça donne qu'il y a une madame qui a un fils qui a un tuxedo, puis que, par hasard, arrangé avec le gars des vues, ça lui fait comme un gant. Fait que lui, il peut entrer dans cette pièce-là, parce qu'il y a un tuxedo. Mais quand il rentre, il prend le pain avec ses mains, il mange. On voit qu'il n'y a pas les bonnes manières, il n'y a pas la finesse de tous ces gens-là qui sont habitués de manger dans ce genre de restaurant, ce type de salle. Il n'y a pas tout le décorum puis tout ça. Puis, tu sais, même à un moment donné, il lance un pain ou il lance un briquet, tu sais, de bord en bord de la table. On voit qu'il n'y a pas nécessairement toutes les bonnes manières. Mais personne ne peut le mettre à la porte de cette pièce-là parce qu'il y a un tuxedo. Et de la même manière que nous, les chrétiens, personne ne peut nous mettre dehors de la présence de Dieu à cause du sang de Jésus-Christ lorsqu'on l'a reconnu comme notre Seigneur et Sauveur, lorsqu'il nous a sauvés et qu'on est un enfant de Dieu. Eh bien, personne, malgré nos fautes, malgré nos manquements, malgré nos imperfections, on peut s'approcher de lui avec assurance. C'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 10, verset 10. « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés ou mis à part par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. » On peut s'approcher de lui avec assurance au chapitre 4. On a un accès à cause du sang de Christ au chapitre 9 de la même lettre. Mephibosheth pouvait s'approcher de la table de David à cause de l'alliance qu'il avait faite avec Jonathan, à cause de l'alliance qui était entre David et Jonathan. Et nous, on peut recevoir tout bienfait de Dieu, toute bénédiction de Dieu à cause de l'alliance entre le Père et le Fils. Et j'ai été placé dans le Fils et je bénéficie de cette alliance entre le Père et le Fils. Et cette alliance qui est inaugurée par son sang ne repose pas sur moi, mais de l'entente qu'il y a eu entre le Père et le Fils. Au verset 12, il y avait un jeune fils du nom de Mica, et tous ceux qui habitaient chez Tsiba étaient à son service. Mephibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait constamment à la table du roi. Il était estropié des deux pieds. En conclusion, j'aimerais te mentionner, est-ce que tu es découragé? Est-ce qu'il y a une situation dans ta vie qui te décourage? Moi, souvent, je me demande, comment tu peux m'utiliser, Seigneur? Moi, je suis une machine à gaffe. Je peux dire des niaiseries, je peux faire des niaiseries, je peux réaliser que je me suis mis les pieds dans un plat. Moi, j'aime bien blaguer, taquiner, puis des fois, je me dis, oh boy, je pense que j'ai blessé cette personne-là, c'était pas mon intention. Mais je me dis, ben, puis moi, ça va m'arriver d'être découragé de moi-même. Mais savez-vous, qu'est-ce qui me relève? C'est pas que j'essaie de remonter mon estime de moi, c'est que je fais juste m'approcher vers celui qui m'accueille malgré mes fautes. Je m'exerce à me réapprocher. C'est encore moi, Seigneur. c'est encore moi, j'ai encore pas passé le test, j'ai encore échoué, Seigneur. Mais je sais une chose, c'est que je suis accueilli dans ta présence. Ça ne veut pas dire qu'on va faire exprès pour faire des gaffes, c'est pas grave, on va vivre n'importe comment, on va faire tout ce qu'on veut, de toute façon on est accueilli. Non, ça ne produit pas cette attitude-là. Lorsqu'on s'approche de Dieu, reconnaissant notre faute et reconnaissant notre indignité, ça ne produit pas une arrogance. Ça produit une appréciation, une reconnaissance, des actions de grâce. Peut-être que tu te sens indigne, mais rappelle-toi d'une chose. Si tu compares, tu te compares en tant que chrétien ou chrétienne avec Mephibosheth. Mephibosheth était digne de mort à cause de Saül. Nous, on est digne de mort à cause d'Adam. Il a été handicapé à cause de sa chute. Nous, on a été handicapé à cause de la chute d'Adam. Il va se cacher, puis il ne reviendra pas à la maison de son père, comme Adam s'est caché. Dieu veut son bien à cause de... David veut son bien à cause de Jonathan. Dieu veut notre bien à cause de Jésus-Christ. David envoie un serviteur pour le ramener à lui. Dieu a utilisé quelqu'un, envoyé un serviteur, un chrétien, pour t'annoncer la bonne nouvelle. Mephibosheth craint pour sa vie à cause de Saül, parce qu'il est digne de mort. Et nous, on est digne de mort à cause d'Adam. Il est exclu de tout honneur. Nous, on est privés de la gloire de Dieu. Il est placé dans l'alliance entre David et Jonathan à cause de Jonathan, et nous, on reçoit la justice de Dieu à cause de Jésus-Christ. Mais cette alliance-là ne repose pas ou ne dépend pas de nos performances, mais elle repose sur lui. Dans le cas de Mephibosheth, elle repose sur Jonathan et nous, sur Jésus-Christ. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Si on lit la suite de l'histoire de Mephibosheth, on voit au chapitre 19, qu'il a fait une gaffe, il s'est mis les pieds dans les plats. Pas juste parce qu'il était handicapé, mais il n'a pas pensé plus loin de son nez. Puis ça a eu des conséquences. Il a perdu certains privilèges. Mais il n'a pas été exterminé. Et à cause de Jonathan, il continuait à être reçu de David. Et de la même manière que nous, oui, on peut faire des gaffes, puis des fois des gaffes qui vont nous amener des conséquences. Puis le Seigneur ne les enlèvera pas toujours, les conséquences. Des fois, dans sa miséricorde, il peut nous faire un cadeau, puis d'autres fois, il va dire non, tu vas le vivre, puis parce que ça va t'apprendre une leçon. Mais une chose qu'on peut faire, c'est festoyer. Festoyer. Puis se réjouir de notre accès qu'on a auprès de Dieu à cause de Jésus-Christ. J'inviterai les musiciens à s'avancer. Puis sais-tu quoi? C'est le meilleur moyen pour mettre notre ennemi en échec. De s'approcher de Dieu lorsqu'on se sent indigne, lorsqu'on ne se sent pas à la hauteur. Lorsque je ne me sens pas à la hauteur, eh bien, il me reste juste une chose. Ce n'est pas m'apitoyer sur moi-même. Ce n'est pas d'essayer en bon québécois, booster mon ego. C'est pas essayer de trouver où est-ce que je suis bon pour compenser, mais tout simplement me recueillir devant Dieu, puis demander, bien, premièrement, apprécier l'accès que j'ai auprès de lui et demander qu'il me fasse grâce, qu'il m'accorde une porte de sortie, que je puisse voir que je suis reçu puis accueilli de lui. Comme Bob Dylan, il a accepté l'honneur en France, l'honneur de la Légion d'honneur. De la même manière que nous, on doit accepter de s'approcher de Dieu puis de recevoir tout ce qu'il a pour nous et de le célébrer. J'aimerais ça qu'on puisse se recueillir, s'il vous plaît. Seigneur, on veut se recueillir pour prendre quelques instants puis réfléchir sur ce que tu veux nous dire dans ce message. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, eh bien, est-ce que tu te prives de la présence de Dieu? Est-ce que tu te prives de l'amour de ton Père? Est-ce qu'il y a un terrain sur lequel tu te sens indigne? Sache que tu peux être accueilli à cause de Jésus-Christ. Si tu n'as jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est le temps de le faire maintenant. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel tu peux être sauvé. Ce n'est pas par tes propres forces, ce n'est pas par un autre intermédiaire, par des anges, ce n'est pas par un prophète que tu peux être sauvé, ou un autre personnage, ou par une religion. Mais si tu réalises aujourd'hui que le seul qui peut te sauver, c'est Jésus-Christ qui a pris ta condamnation, qui a pris ta honte, qui a pris ton indignité, il l'a porté sur la croix à ta place. Tu peux être sauvé par lui en disant, je reconnais que je suis digne de mort comme Méphibosheth devant ta pureté, ta sainteté. Mais que tu veux me donner une nouvelle vie, une vie nouvelle, qui va commencer ici, mais qui va se poursuivre dans l'éternité. Demande-lui de te sauver. Alors, merci Seigneur de faire du bien aux gens de cette église, à tous ceux qui nous écoutent par la toile, et que ce message puisse amener encore plus d'actions de grâce et de reconnaissance envers toi. Je te remercie dans le nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.